Radio Okapi.
Le chef de l'État décide de mettre fin à l'anarchie dans les secteurs miniers. Un pas vient d'être franchi en ce sens avec l'interdiction de la présence des militaires et policiers sur les sites miniers en dehors des missions prévues par la loi. C'est ce qui ressort du dernier conseil de ministres. Vous suivrez des précisions du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Nous parlerons de ces accidents de circulation impliquant des camions de grand tonnage sur la route de Matadi au quartier Matadi-Mayo à Kinshasa. Deux mortels entre jeudi et hier samedi. Bilan total, 7 morts et des blessés graves. Des pannes techniques seraient à la base de ces drames. Notre invité est Diego Takizala, président du conseil d'administration de l'université Nouveaux Horizons à Lubumbashi. Il revient sur l'installation récemment d'un supercalculateur au sein de cette institution universitaire. Alors de quoi s'agit-il et quels en sont les avantages? Réponse dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce journal avec cette mesure du chef de l'État. Félix Tshisekedi met fin à l'implication illégale des hommes en uniforme dans l'exploitation minière. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de cette semaine. En clair, le chef de l'État ordonne le retrait immédiat des militaires et policiers présents sur les sites miniers en dehors des missions prévues par la loi. Cette mesure vise à renforcer la gouvernance du secteur et lutter contre la fraude, mais aussi à garantir une exploitation des ressources minières conforme aux règles en vigueur. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, explique un peu plus sur les raisons qui ont conduit à cette mesure. C'est dans cet extrait que nous propose Kassam Zati.
Une telle situation entretient de perceptions négatives sur la gouvernance de nos ressources naturelles, fragilise les mécanismes de contrôle, favorise les circuits illicites et compromet les efforts déployés par le gouvernement en faveur d'une exploitation responsable, transparente et conforme aux standards internationaux. Pour le président de la République, il est donc hors des questions de laisser de tels agissements préoccupants porter gravement atteinte à l'autorité de l'État, à l'image de notre pays, à la crédibilité des réformes engagées dans les secteurs miniers, ainsi qu'à la confiance des investisseurs et des partenaires nationaux et internationaux. Car la militarisation illégale de sites miniers entraîne notamment la privation de la jouissance paisible des droits miniers par leurs titulaires légitimes, l'insécurité dans les zones d'exploitation, les actes d'intimidation, des tracasseries et d'extorsion à l'encontre des services de l'État, des opérateurs miniers ainsi que les communautés locales, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des traçabilités des minerais et les développements des réseaux de fraude, de contrebande et d'enrichissement illicite.
Puisque nous parlons des sites miniers, restons-y avec la libération jeudi de 20 civils par des rebelles ADF à Mambasa. Ce groupe, composé de 5 enfants mineurs et des membres de la communauté autochtone, est resté en captivité durant plusieurs jours. C'est ce que déclare l'Association pour la promotion et la défense du droit de l'enfant et de la femme basée dans ce territoire de l'Ituri. Ces ex-otages avaient été enlevés lors des attaques du 29 juin dernier dans les localités d'Itembo, Tepe et Pangoi, toujours dans les territoires de Mambasa. Pour les détails.
Selon nos informations, ces personnes ont été abandonnées par le ravisseur vers Bambou, un carré minier situé dans le groupement de Bakayeku. Les rescapés racontent avoir vécu des conditions de détention très difficiles. Certains ont déjà rejoint l'Uemba, d'autres sont à Teturi, tandis que quelques-uns se retrouvent encore à Mungwiko. L'Association pour la promotion et la défense des droits de l'enfant et de la femme, APDF, indique par ailleurs que les rebelles se dirigeraient vers Elota, un autre carré minier de la même zone. Son président, Rams Malikidoko, appelle les populations à la vigilance.
L'ennemi a pris la direction de Elota, où nous ne savons même pas encore le sort de nos combattants qui sont de l'autre côté. Aussi, la population doit demeurer toujours vigilante parce que là que l'ennemi se dirige vers Elota, vers Maroc, vers Pumzika, Pretoria et encore nos compatriotes qui ont droit aussi à la protection comme tout autre civil.
La PDF salue les opérations menées par les FADC et appuyées par les combattants Wazalendo qui ont permis de déloger les ADF de TP où ils tentaient d'installer une nouvelle base. L'organisation appelle les autorités militaires à poursuivre les opérations afin d'empêcher de nouvelles exactions contre les populations civiles. Bounia Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Et puis cette alerte de la société civile du Nord Kivu qui focalise son attention sur la protection des civils, elle demande le renforcement de la coordination entre les FRDC, la MONUSCO et l'armée ougandaise UPDF. Objectif, mieux protéger les populations contre les attaques des groupes armés, notamment des ADF. Cet appel lancé vendredi à l'issue d'une réunion d'échange organisée par la section des affaires civiles de la MONUSCO, cela a eu lieu en présence notamment du conseiller sécuritaire du gouverneur du Nord Kivu et des représentants des sociétés civiles de Beni, Outembo et Lubero. Les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées à améliorer la réponse sécuritaire face aux menaces des ADF et du M23. Suivi à ce sujet, John Banyene, président de la Société civile du Nord Kivu, il est au micro de Martial Papimukeba.
Nous avons parlé longuement pour ce qui concerne les alertes précoces. Nous avons toujours remonté les alertes auprès des autorités compétentes, des autorités militaires, mais malheureusement, ils ont toujours réagi avec un grand retard. Et nous avons vraiment insisté en disant qu'il faut qu'il y ait une bonne coordination d'abord entre les forces, c'est-à-dire le FARDC, UPDF et la MONUSCO. Ils doivent vraiment avoir une bonne coordination pour répondre à temps, aux portées et aux alertes précoces de la population. Pour la menace des ADF et de M23, ce que nous attendons du gouvernement provincial, même du gouvernement national et d'autres partenaires qui sont là, c'est de tout mettre en œuvre pour que la paix et la sécurité puissent être restaurées sur toute l'étendue du territoire national.
4 morts et 6 blessés graves. Bilan d'un accident de circulation survenu hier samedi sur la route de Matadi au quartier Matadi-Mayo, près de l'école Mapinduzi dans la commune de Mongafula. Une défaillance de freinage d'une remorque serait à la base de cet accident sur cette voie de Kinshasa. Le camion de gros tonnage en provenance de Matadi et transportant de la farine a percuté un véhicule Nova. Ce drame survient en moins de 2 jours seulement après un autre intervenu sur ce même axe et qui s'est soldé par le décès de 3 personnes. D'autres détails et témoignages avec Gloriane Lépéa.
Sur le lieu, les véhicules accidentés étaient encore immobilisés, tandis que des riverains sous le choc revenaient sur les circonstances du drame. Parmi eux, une victime rescapée raconte les derniers instants avant l'impact.
Nous venons de Matadi et en descendant, on a eu un problème des freins et le chauffeur a perdu le contrôle et a percuté un véhicule Noah. Nous n'avons survécu qu'à 2.
Un autre témoin appelle les autorités à réhabiliter cette route qu'il considère comme la cause de ces drames à répétition.
Ici, nous sommes sur la route de Matadi. La route est trop petite. C'est pourquoi il y a trop d'accidents. Les véhicules qui viennent du Congo central font souvent des accidents sur ces mêmes axes. Nous demandons au chef de l'État d'intervenir pour cette route.
Rappelons que jeudi, un autre accident mortel a eu lieu sur ce même axe. Plusieurs usagers appellent à des mesures urgentes sur cette route nationale numéro 1.
Arrêt sur cette partie de la route de Matadi qui se transforme de plus en plus en mouroir. Comment se présente cette partie de la route? Eh bien, des cassures, des nids de poules et des flaques d'eau marquent la chaussée au niveau du marché Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Une dégradation qui complique la circulation et perturbe les activités commerciales sur cette portion de la route de Matadi. Gloriane Lepea est descendue sur place. Son reportage.
Au marché Matadi-Kibala, la chaussée est fortement dégradée. Le trou et les flaques d'eau stagnantes qui compliquent la circulation et affectent les activités de commerçants. Les habitants dénoncent une situation qui perdure.
Il n'y a pas si longtemps, cette route a connu une forme de cassure. Et malgré les efforts de nos autorités pour pouvoir arranger cette route, malheureusement ce travail a été mal fait, étant donné qu'au lieu d'asphalter la route, ils ne sont venus que projeter des gravières et des paillasses, les endroits où il y avait des trous.
L'administrateur du marché Matadi-Kibala, Dani Kouete, appelle quant à lui à la responsabilité de chacun pour améliorer l'assainissement du marché.
Nous devons être conscients quand on parle du développement, le développement c'est une affaire de tous. Parce qu'on dit l'assainissement, tout le monde qui exploite les sites doit participer à l'assainissement. Ces derniers temps, vous passez là où on a démoli, j'ai instauré un système de tirage de caniveaux. Nous sommes en train de tirer et d'évacuer. C'est pourquoi des fois, il y a un fil de tuyaux qui fait en sorte que l'eau gère sur la chaussée.
Contactée par notre rédaction, la régie des eaux indique qu'elle descendra sur place afin de vérifier si l'eau qui envahit la la chaussée provient effectivement d'une fuite de ses conduites. Les usagers espèrent une solution durable à cette situation.
Du côté de Bipemba, Mbushimai, c'est la colère et l'inquiétude qui gagnent la population. Plusieurs habitants de cette commune se disent asphyxiés par des nuages de poussière causés par des travaux de modernisation des routes, aux travaux qui avancent par ailleurs normalement. La population, surtout celle habitant le long des chantiers, exige l'arrosage régulier des sites des travaux par les entreprises de construction. En attendant, ces familles vivent dans un environnement saturé de poussière avec des risques croissants de maladies respiratoires. Le point avec Esther Dalafina.
Sur plusieurs tronçons en pleine modernisation, les travaux se succèdent, les engins roulent, les camions soulèvent la terre et les poussières s'invitent dans les maisons. Chaque passage d'un véhicule transforme les routes en véritable couloir de poussière. Les habitants, eux, n'ont d'autre choix que de respirer cet air chargé de particules.
Que les entreprises qui modernisent nos routes puissent aussi les arroser parce que nos populations, nous sommes exposées aux maladies.
Dans les quartiers touchés, les fenêtres restent closes du matin au soir. Les draps, les ustensiles, les meubles, tout est recouvert d'une fine couche de poussière. Les mères des familles passent des heures à nettoyer sans jamais réussir à en venir à bout. Rose Kabanga appelle le gouvernement provincial à trouver des solutions.
Il y a les poussières partout, dans la maison, sur le lit, même dans tout ce que nous mangeons. Est-ce qu'on ne peut pas arroser? Nous avons beaucoup supporté que le gouvernement nous aide.
Selon Dr Théophile Nemandjaré, l'exposition prolongée à ces poussières peut provoquer des irritations et des infections respiratoires.
Quand l'air est pollué, parce qu'on ne sait pas, dans cette poussière-là, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir des substances toxiques, des chimiques, qui peuvent provoquer des maladies respiratoires.
Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les nouvelles autorités communales de Kassindi à Beni réaffirment leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Plus concrètement, le bourgmestre multiplie des appels à la salubrité publique. Il est convaincu que l'assainissement constitue un levier important pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la population. Et cela passe, selon lui, par la promotion des travaux communautaires. Un des responsables de cette commune, Gilbert Bouambali, donne des précisions au micro de Marc Maroufimbo.
Comme vous avez vu la stratégie, c'est ramassage des immondices est fait partout. À partir de la semence, Ropwebubu a descendu vers Glovos. Tout a été rendu propre. Pour ceux qui ne s'appliquent pas, je leur demande de s'amender. Il y a des motards qui circulent, il y a des véhicules, tout ça. Nous prendrons des mesures progressivement pour que tout le monde travaille pendant les heures de salon. Vous savez que nous sommes un pays solution en matière de protection de l'environnement à cause de notre forêt équatoriale. Donc, ce n'est pas concevable que ce soit nous qui polluons encore nos milliers de vies, qui polluons encore nos agglomérations, pendant que la RDC est en train de vouloir donner la solution au monde. Nous insistons là-dessus. La question de la salubrité publique, nous allons y veiller jusqu'à ce que nous nous rendions compte que les gens se sont habitués à la propreté dans les maisons et sur les voies publiques.
Notez que Kassindi est une commune frontalière de l'Ouganda ouvrant sur l'Afrique de l'Est. Politique à présent avec cette interrogation, comment garantir des élections crédibles et renforcer la démocratie en Afrique? La question est au cœur d'un forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité organisé à Addis Abeba en Éthiopie. Invité à prendre la parole ce week-end, le sénateur congolais Salomon Kalonda Dela a plaidé pour des institutions électorales indépendantes, un meilleur contrôle démocratique du service de renseignement et une plus grande implication de la communauté internationale face aux atteintes à l'état de droit. Il a également pris l'exemple de la RDC pour dénoncer ce qu'il considère comme des dérives susceptibles d'affaiblir la démocratie. Des détails à ce sujet avec Assam Sati.
Devant des parlementaires africains réunis à Addis Abeba, le sénateur Salomon Kalonda Dela a estimé que la crédibilité des élections repose avant tout sur la confiance des citoyens dans les institutions. Selon lui, cette confiance est fragilisée par le manque d'indépendance de certaines commissions électorales, l'opacité dans la proclamation des résultats, ainsi que l'utilisation des services de renseignement à des fins politiques. Il a également critiqué ce qu'il qualifie de silence de la communauté internationale face à certaines réformes constitutionnelles contestées sur le continent, citant notamment le débat en cours en RDC autour d'un éventuel changement de la constitution. Le sénateur a aussi dénoncé les nouvelles formes de fraude électorale, comme l'invalidation des candidats avant le scrutin, ou les coupures d'Internet lors de la publication des résultats. Pour renforcer l'intégrité des élections, il propose notamment la création d'une cellule africaine des veilles électorales, le développement d'outils numériques sécurisés, des audits électoraux transparents et un mécanisme d'observation parlementaire couvrant l'ensemble du processus électoral. Selon Salomon Kalonda, des élections crédibles constituent un facteur essentiel de stabilité, de développement et de paix en Afrique.
Actualité internationale.
Sénégal, grève générale de 24 heures du bras de fer entre les syndicats et les autorités se poursuit. Parmi les doléances, d'après RFI, un manque de concertation sur des réformes qui concernent les droits des travailleurs et une série de licenciements dans des institutions que les syndicats veulent voir annulées. Après un nouvel échec des négociations avec le ministère de la fonction publique, une grève de 24 heures a été déclarée vendredi.
L'invité.
Il s'agit de Diego Takizala, président du conseil d'administration de l'université Nouveaux Horizons à Lubumbashi. Il revient sur l'installation récemment d'un supercalculateur au sein de cette institution universitaire. D'après lui, c'est une première en RDC. Il souligne que cette machine dépasse la capacité d'un ordinateur et permet de transmettre des données à une très grande vitesse et même en faire la simulation en numérique. On l'écoute dans cet entretien avec Paul Amunanga.
Monsieur Diego Takizala, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques jours, un supercalculateur qui a été installé ici au niveau de l'université Nouveaux Horizons. C'est quoi tout d'abord, en des termes plus simples, un supercalculateur?
Alors, un supercalculateur, c'est une grande machine avec plusieurs serveurs informatiques interconnectés pour fonctionner comme un seul ordinateur. Ces serveurs sont interconnectés à un réseau à très haute vitesse et très faible latence, ce qui permet la transmission des données à une très grande vitesse. Et c'est ça qui fait que la machine a une capacité de calcul intense, comparée avec des laptops ou des PC ordinaires.
Comment est-ce que cette machine fonctionne?
Cette machine fonctionne avec des microprocesseurs. Il y en a plusieurs. Donc, il y a ce qu'on appelle les cœurs de calcul CPU.
CPU, c'est quoi?
CPU, c'est un terme anglais pour déterminer le nombre de cœurs de calcul que vous avez dans un ordinateur ou dans un laptop. Pour vous donner un exemple, un laptop peut avoir 10 cœurs de CPU, alors que notre supercalculateur a 1000 cœurs CPU. Et les cœurs CPU, c'est ça qui vous permet justement de faire ces opérations de calcul. Alors, dans le supercalculateur, vous avez aussi une partie qu'on appelle GPU. Les GPU, ce sont les cartes graphiques. Et les cartes graphiques font le même travail que les cœurs de calcul CPU, mais à une plus grande vitesse, parce que ça accélère la capacité de calcul de la machine. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la simulation numérique.
Calculateur. Ça calcule quoi exactement?
En fait, le terme calculateur est utilisé parce que au tout début de la technologie, on avait commencé avec des calculatrices. Après les calculatrices, on a commencé à parler d'ordinateurs. Mais les ordinateurs sont en fait des calculatrices plus complexes, qui font plus d'opérations mathématiques qu'une calculatrice ordinaire. Alors maintenant qu'on a dépassé la capacité de calcul d'un ordinateur, on parle maintenant de supercalculateur. Donc c'est pour ça qu'on utilise le terme calculateur. Parce que le supercalculateur peut être utilisé dans presque tous les domaines de la vie aujourd'hui.
Quel rapport y a-t-il entre les supercalculateurs et l'intelligence artificielle?
En fait, il faut voir ça comme une pyramide. Donc au sommet de la pyramide, vous avez les données. Alors à la base de la pyramide, vous avez le supercalculateur. Le supercalculateur va traiter les données pour vous donner l'intelligence artificielle. Donc c'est comme ça que ça marche.
Et dans les cas d'espèce, cette machine-là, comment est-ce qu'elle va aider les étudiants de l'université Nouveaux Horizons?
Ici à l'université Nouveaux Horizons, nous avons une faculté de sciences informatiques qui a un département d'intelligence artificielle. Donc c'est d'abord ces étudiants-là qui seront servis parce qu'ils font beaucoup de TP dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le jour de l'inauguration du supercalculateur, on a eu un étudiant qui a présenté son projet de recherche. Il travaillait sur une intelligence artificielle de traduction de langue. Donc, il a créé un modèle d'intelligence artificielle qui pouvait traduire du français au rund et du rund au français. Et pour faire son travail de recherche, il avait besoin d'un supercalculateur pour le faire. Parce qu'avec un laptop ordinaire, ça n'allait pas marcher.
Pourquoi?
À cause de la masse de de données qu'il devait traiter. Il s'est basé sur la Bible, donc c'est là qu'il a eu les données pour le round. Et en plus de ça, il a utilisé d'autres bouquins en round. Donc ça fait qu'il y avait plusieurs mots ou round qui devraient être traités dans un modèle de langue d'intelligence artificielle. Et la seule façon de pouvoir entraîner son modèle d'intelligence artificielle, c'était de le faire à travers un supercalculateur, parce qu'un PC, un laptop ordinaire n'allait pas être en mesure de faire ce travail-là.
Comment utiliser un supercalculateur sur la maladie d'Ebola, par exemple?
Quand l'épidémie a commencé, on avait dépêché des médecins congolais sur le terrain pour essayer de contenir la maladie. Alors, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Donc, il y a des prélèvements qu'on devait prendre chez les patients et ces prélèvements devaient être analysés. Nous sommes à mesure de prélever les données sur place, les traiter sur place, les analyser sur place et prendre nos propres décisions par rapport à une situation éventuelle qu'on doit gérer sur notre terrain. En faisant ça, nous retenons notre souveraineté des données et nous retenons notre avantage concurrentiel par rapport aux autres pays.
Monsieur Diego Takizala, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'apport de Dieudonné Nyangasa à la technique, Lévin Bunga à la supervision. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon dimanche.